Bonjour à tous, bienvenue, bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h et plusieurs dossiers que l'on va développer en ce samedi 4 décembre. Les Républicains auront leur candidat en début d'après-midi. Les militants ont encore 2 heures pour choisir entre 2 lignes bien distinctes. Alexandre Chauveau avec nous et l'analyse du sondeur Jean-Daniel Lévy dans un instant. De nouvelles mesures sans doute annoncées dès lundi après un nouveau conseil sanitaire pour contrer la 5e vague du Covid. L'hôpital est sous tension, manifestation de l'hôpital public à Paris et partout en France, nous serons sur place. Et puis nous, comment allons-nous? Quel impact a ce Covid et ses annonces sur notre santé mentale? Le psychiatre Laurent Mauraz, invité d'Europe Midi Week-end. Enfin, notre vie quotidienne, le tarif des péages vont augmenter de 2% en moyenne. Les stations de ski rouvrent, mais il manque des saisonniers. Et puis le Téléthon, c'est tout ce week-end, vous le savez. Cette année, il y a une nouveauté, le Téléthon digital. Je recevrai son ambassadeur, le pape de l'électro, Jean-Michel Jarre. Mais d'abord, la tendance météo de votre samedi, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, dégradé de gris sur l'ensemble du pays avec beaucoup de pluie et de la neige sur la façade est. Un ciel très bas entre les Ardennes et la vallée de la Garonne. Un peu plus de luminosité depuis les Hauts-de-France jusque sur l'estuaire de la Garonne avec l'apparition à partir de maintenant de quelques belles éclaircies. Une tendance orageuse le long de la Manche sous de fortes rafales de vent.
Et bien sûr la météo complète juste avant 13h. On peut dire que ce samedi, la campagne présidentielle démarre vraiment. Dans deux heures maintenant, eh bien les Républicains auront leur candidat ou candidate, bien sûr. Bonjour Alexandre Chauveau.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À quoi vont ressembler les prochaines heures pour les Républicains?
Eh bien, peu après l'annonce des résultats par Christian Jacob au siège du parti, le candidat élu prononcera un discours, puis il y aura une photo de famille en présence des 5 participants au congrès pour bien montrer que les Républicains sont unis à l'approche de la présidentielle. C'est là que le plus dur commencera pour le vainqueur qui s'exprimera ce soir au journal de 20h et devra rapidement composer son équipe de campagne en intégrant notamment ses anciens concurrents. La semaine prochaine sera consacrée au rassemblement. Un déjeuner aura lieu en ce sens mardi rue de Vaugirard autour du candidat et des parlementaires LR, suivi d'un autre déjeuner de travail le lendemain avec Christian Jacob et Gérard Larcher. Autant de réunions qui visent à préparer le grand meeting prévu samedi prochain, porte de Versailles. Le parti veut y faire une démonstration de force. Plusieurs TGV ont d'ailleurs déjà été réservés pour faire venir les militants à Paris. Et puis des milliers de t-shirts ont déjà été commandés également, sur lesquels il n'y aura pas de nom de candidat, puisque la commande a été effectuée il y a quelques jours, avant donc l'issue du scrutin.
Voilà pour le programme et la logistique. Alors Alexandre, que ce soit Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, on le sait, on le voit bien, le candidat LR est pour l'instant assez bas dans les sondages. Quel est l'espace politique, Alexandre, réel, on va dire, pour le vainqueur?
Alors tout l'enjeu, ce sera de ne pas se faire étouffer par, d'une part, Éric Zemmour à droite et d'autre part, par Emmanuel Macron au centre. Ça, Valérie Pécresse l'a bien compris. Elle expliquait jeudi soir, après sa qualification, qu'elle était, je cite, « au barycentre de la droite », c'est-à-dire justement qu'elle se sentait capable de capter les électeurs LR partis chez Macron en 2017 et ceux tentés par Éric Zemmour cette année. Éric Ciotti, lui, est sur un positionnement plus droitier, il se dit convaincu que seules ses idées peuvent rassembler tous les électeurs de droite. Même en cas de défaite, son score sera observé de près et donnera des indications sur les attentes des militants en matière de ligne politique.
Merci Alexandre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonjour Jean-Daniel Lévy.
Oui, bonjour.
Directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Les militants LR votent encore. Participation massive, on l'a dit, hein, 76,6% à 10h. Qu'est-ce que cela dit finalement de cette élection? Qui va l'emporter, selon vous?
Qui va l'emporter? Si on regarde la logique du premier tour, ça devrait être Valérie Pécresse, mais on a vu qu'on a déjà eu des surprises dans le cadre du premier tour. Donc on va patienter 2 heures pour voir les résultats réels. Quoi qu'il en soit, quand on regarde le côté ligne politique d'un côté et également le rassemblement de l'autre, on a vu que les 4 candidats sont derrière Valérie Pécresse.
On l'évoquait à l'instant avec Alexandre Chauveau, c'est aussi un choix d'avenir pour la droite française. Quelle ligne incarner finalement?
Oui, en même temps, si on regarde vraiment dans le détail, on n'a pas eu de confrontation extrêmement forte selon les projets politiques de la part des uns et des autres. C'était plutôt des nuances ou des priorisations qui étaient effectuées de la part des uns et des autres, ou encore des questions de posture. Peut-être que Éric Ciotti a été le seul a parlé aussi ouvertement de sa proximité d'avec Éric Zemmour et que Valérie Pécresse a été la seule à mettre en avant un programme libéral d'un point de vue économique. En tout cas, c'est celle qui portait le programme le plus libéral des cinq candidats.
Jean-Daniel Lévy, c'est un gros week-end politique avec deux gros meetings demain, celui de Jean-Luc Mélenchon à la Défense, celui d'Éric Zemmour à Villepinte. Éric Zemmour qui a dévoilé son affiche de campagne et surtout son slogan « Impossible n'est pas français ». Ce moment, il est crucial également pour Éric Zemmour.
À ce moment, il est crucial à peu près pour tout le monde. Et quand on reviendra sur la campagne présidentielle, on pourra se dire que ce week-end du 4-5 décembre aura été un moment très important. Un, l'investiture, ou en tout cas la désignation du candidat soutenu par les Républicains. Deux, le premier gros meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et puis trois, une démonstration de force que souhaite montrer Éric Zemmour après une entrée en campagne qui n'a pas été réussie et après une baisse sondagière qu'il connaît aujourd'hui. Et puis peut-être les derniers meetings de campagne auxquels on va assister, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure la crise sanitaire va se développer en France et qu'on sera en plus grande difficulté, bien comme sûr. On l'a vu, notamment au départemental ou au régional, une difficulté à pouvoir réunir du monde dans des meetings.
Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive, grand merci à vous, merci beaucoup. L'avenir de l'hôpital public sera-t-il au cœur de la campagne présidentielle? C'est en tout cas ce qu'espèrent les nombreux collectifs de soignants. Nouvelle mobilisation aujourd'hui partout en France, notamment à Paris, pas loin du ministère de la Santé. Où vous vous trouvez, Marion Gauthier?
Oui, déjà une centaine de soignants sont arrivés. Ils parsèment la place Vauban, parc à jaune des services d'urgence, poncho rouge de la CGT, des banderoles du centre d'Arles, de Péronne dans la Somme. Un rassemblement qui répond à l'appel des hôpitaux de proximité de Mayenne, là-bas. Sur 5 services d'urgence, 4 sont fermés la nuit. Et cette situation symbolise l'abandon de la santé en France, le manque de personnel et de moyens, souligne Claire, qui travaille depuis des années dans un laboratoire francilien.
Si ça se dure comme ça, il n'y aura plus personne pour soigner les patients. Et ça, on n'en veut pas parce qu'on aime notre métier et on veut le faire correctement.
Mais à côté d'elle, t-shirt du collectif Santé en danger par-dessus le caouet, Sophie hoche la tête, la voix tremblante. L'infirmière raconte revenir d'un burn-out de 2 ans.
Je suis émue parce que je suis revenue au travail là en février. J'ai vu que les conditions étaient complètement dégradées. Mes collègues, mais au bout du rouleau. Et là, en plus, il y a une nouvelle vague qui arrive, tranquillement. Et concrètement, on ne la supportera pas. On va devoir faire des tris. C'est pas possible. C'est pas dans notre nature de soignant.
Et la reprise de l'épidémie de Covid comme un ultimatum. Des représentants de tout le personnel soignant, médical et paramédical, sont attendus ici pour demander en chœur et en musique un New Deal de la santé. Le cortège devrait partir à 13h pour arriver à 14h devant le ministère des Solidarités et de la Santé.
Merci beaucoup Marion. Marion Gauthier en direct de la manifestation pour l'hôpital public à Paris. Dans un instant, nous serons en Guadeloupe où les contestataires tiennent encore certains barrages. On parlera également de nous, de notre santé mentale avec ces yo-yo sanitaires. Quel impact ils ont réellement sur nous, le psychiatre lyonnais Laurent Moras sera mon invité. Bon appétit, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
1h20, la suite de votre édition de la mi-journée. Revenons d'abord sur les événements en Guadeloupe. Près de 150 interpellations au total, plus de 70 personnes ont été jugées et plus de 60 condamnées après ces scènes de pillage de magasins et de tentatives d'homicide sur des policiers. Même si les autorités tentent de rétablir la circulation sur l'île, un barrage, celui de la Boucan, résiste encore et toujours. Il est à Sainte-Rose, dans le nord de l'archipel. Les gendarmes n'ont pas encore réussi à le faire évacuer. Reportage sur place, Mathieu Bock.
Devant des carcasses de voitures calcinées qui barrent la route et des pneus qui brûlent, ce sont les manifestants qui font la circulation. Et pour les automobilistes qui essayent de négocier, on réexplique clairement qui est autorisé à passer.
C'est ambulancier. Pompiers,
personnes handicapées,
ambulanciers, pompiers, handicapés, ravitaillement.
Certains camions sont même fouillés, explique Ludovic Tolassi, le porte-parole du mouvement Moon Guadeloupe.
C'est pas un contrôle vraiment, c'est juste une vérification de savoir si ça correspond. On sait qu'aujourd'hui, voilà, on a des forces spéciales qui sont en Guadeloupe. On va pas laisser un camion entrer avec 50 membres du GIGN, bon, ça serait un peu bête de notre part. Il n'y a pas de cheval de Troie quand même.
À 15h précise, les manifestants referment le barrage, entraînant au milieu de la route les carcasses en métal. Une situation extrême mais indispensable pour Willy et Hubert.
Nous ne sommes pas contre notre population, mais on a des choses à dire. Parce qu'il y a des jeunes qui sont en souffrance dans la commune.
C'est pour ça que ce barrage est aussi vivant. Et vous avez autant de jeunes qui viennent pour la première fois, mais qui ont envie de dire leur ablot, simplement.
Et pour bien montrer que cette ville est désormais coupée du reste du territoire, un contestataire a peint sur le bitume République démocratique de Sainte-Rose. Sainte-Rose, Mathieu Bock, Europe 1.
Les chiffres du Covid, la barre des 2000 malades a été franchie en réanimation lors des dernières 24 heures. On note près de 50 000 nouvelles contaminations. Le pic de la cinquième vague devrait arriver fin janvier, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nouveau conseil de défense sanitaire, vous le savez, lundi matin, l'exécutif pourrait renforcer les contrôles du pass sanitaire et devrait rouvrir des centaines de centres de vaccination sur l'ensemble du territoire. Alors justement, comment on réagit? Comment nous réagissons-nous par rapport à ce yo-yo permanent sur la situation sanitaire, sur les possibles annonces? Quelles conséquences cela a sur notre santé mentale? Rapport très intéressant que vient de publier l'Institut Santé Mentale et Territoire. Bonjour Laurent Moras.
Bonjour Thierry Dagiral.
Vous êtes psychiatre à Lyon, directeur scientifique de l'Institut de Santé Mentale et des Territoires. En superficie, les Français vont bien, mais dès que l'on gratte un peu, finalement, on constate des troubles.
Alors tout à fait, effectivement, donc, notre enquête réalisée par Harris Interactive sur un échantillon représentatif de Français a montré que dès qu'on grattait un petit peu, 48% en fait, de nos concitoyens déclarer des troubles du sommeil, d'anxiété, de dépression, de sentiments d'isolement. Et ce chiffre est extrêmement inquiétant parce qu'il est plus du double de ce qu'on observe habituellement.
Et ça touche qui principalement, docteur ?
Alors, on a en fait, initialement, ça touchait beaucoup les jeunes et les personnes âgées sur la première vague. Aujourd'hui, on a effectivement un impact transversal sur l'ensemble de la population avec quatre types de situations. Le premier type, c'est l'après-coup de la première vague. L'arrivée de la pandémie Covid a clairement généré des traumatismes sur une partie de la population. Il y a eu également des deuils compliqués, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes sont décédées et l'accompagnement classique d'un patient mourant n'a pas pu se faire comme il se fait habituellement. Ça, ouais. C'est le premier axe. Le deuxième axe de ce qu'on a pu observer au fil des vagues successives, ce sont les pathologies du lien, parce que ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, c'est que la Covid est en elle-même une pathologie psychiatrique, parce qu'elle attaque le lien. Mmh. Pour me protéger, pour protéger l'autre, je dois m'isoler. Et en m'isolant, je coupe le lien. Bien sûr. Or, le lien, c'est la vie.
Ça, c'est le deuxième point.
Et là,
point.
On a les plus jeunes et les adolescents.
Troisième point, docteur.
Le troisième, c'est la crise du milieu de vie. Beaucoup de Français se sont retrouvés en confinement et en télétravail et ont réinterrogé les fondamentaux de leur vie. Quelle place je laisse au travail, quelle place je laisse à la famille, où j'habite. Et on a aujourd'hui une bonne partie de la population qui est en crise de milieu de vie, sans trop savoir comment la traiter.
Dernier point.
Et le quatrième point, c'est l'épuisement actuel. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, une partie des Français est épuisée. Certains sont désabusés et ont des vécus dépressifs. D'autres craquent sur le mode de la révolte.
Et vous dites finalement, rapidement, qu'il faut un vrai plan global, malgré les annonces récentes, on va dire, du gouvernement. Hein.
Tout à fait. Ce qui est très compliqué aujourd'hui par rapport aux annonces du gouvernement, c'est que il y a un focus qui est fait sur l'hôpital public et ce focus est nécessaire. Nos collègues publics ont besoin d'être aidés. Mais les pathologies dont on parle relèvent de la psychiatrie de monsieur et madame tout le monde. Oui. C'est votre psychiatrie, la mienne, c'est nous quand nous allons mal. Et ça touche habituellement 20-25% des Français. Aujourd'hui, la moitié. Or, historiquement, cette psychiatrie de tous les Français n'a pas été investie en France. Oui. Donc on a une psychiatrie effectivement libérale, un système de clinique privée, un système de centres ambulatoires qui est aujourd'hui totalement délaissé alors que ça nécessiterait un focus complet.
Appel lancé. Merci à vous, le directeur scientifique de l'Institut de Santé Mentale et des Territoires, Laurent Moras. Merci à vous docteur, merci beaucoup. Il faudra dès aujourd'hui un pass sanitaire pour faire du ski. C'est depuis ce matin que les stations d'ailleurs sont à nouveau offertes. Une ouverture espérée par les skieurs autant que par les professionnels. Mais voilà, beaucoup s'inquiètent de la pénurie de saisonniers. Par exemple, dans les Alpes, il manque jusqu'à 10% du personnel. Dans les Pyrénées également, les pros doivent s'adapter et fidéliser leurs salariés. Reportage sur place, Benjamin Péter.
Ce week-end, je n'aurai pas tout le monde parce que mes saisonniers arrivent que la semaine d'après.
Cyril devra attendre le week-end prochain pour que son équipe soit au complet. Lui qui tient le rendez-vous, un restaurant au pied des pistes, a eu du mal à trouver ses 12 salariés.
Avant, on ne logeait pas forcément le personnel. Le personnel, maintenant, tout le monde veut être logé. Je pense que les gens ont changé de secteur d'activité. Donc, eh bien, du coup, on a revu les salaires à la hausse pour attirer du personnel. Sinon, sans personnel, nous, on ne peut rien faire.
Côté pisteur, perchiste ou agent d'accueil, en revanche, on a fait le plein sans difficulté. Pour Jacques Murat d'Axe 3 Domaines, ils ont fait le choix depuis plusieurs années de fidéliser les locaux.
On a beaucoup de personnes qui vivent à l'année, qui travaillent à la station, donc c'est des saisonniers sédentaires, entre guillemets, qui travaillent l'été dans d'autres activités. On a quand même 75-80% de nos salariés qui reviennent chaque année. Hein. Certaines stations qui n'ont pas ce bassin de salariés à proximité, eux sont un peu plus embêtés.
Mais l'autre difficulté pour les professionnels cette année, c'est que les habituels forums de saisonniers ont tous ou presque été annulés pour cause de Covid. Tout s'est fait en visio, ce qui là aussi n'a pas facilité les candidatures. À Axe 3 Domaines, Benjamin Péter, Europe 1.
Allez, on continue à s'intéresser à notre vie quotidienne. Attention, le budget des automobilistes va encore traquer. Information du Parisien ce matin, les tarifs des péages vont augmenter en 2022, Zoé Pallier.
Oui, 2% d'augmentation à partir du 1er février. Alors, c'est une moyenne nationale. Ça dépend en fait de la société qui gère l'autoroute. Par endroit, la hausse dépasse donc les 4%, par exemple au niveau de la 86 en région parisienne ou du viaduc de Millau en Aveyron. Alors pour les concessionnaires, c'est simple. Ce qui justifie cette augmentation, c'est l'inflation. Et elle a flambé en novembre. Un argument mal accueilli par Daniel Quérault. Il est président de l'association 40 millions d'automobilistes.
Plus de 2%, c'est quand même extrêmement élevé. Même s'il y a un pic d'inflation en ce moment, c'est l'augmentation la plus importante depuis 2012. Ça va effectivement augmenter la colère. L'autre point aussi, c'est que finalement, les péages sont devenus tellement chers que vous avez un certain nombre de gens qui se détournent des autoroutes par nécessité financière. Et on les met sur les routes secondaires qui sont les plus accidentogènes. Ceux qui n'ont pas tout à fait les moyens, eh bien, c'est eux qui subissent les conséquences les plus lourdes.
Et les sociétés autoroutières sont de toute façon liées par contrat avec l'État. Le gouvernement doit donc encore approuver ces nouveaux tarifs.
Merci beaucoup, Zoé Pallier. Restez avec nous dans un instant, le Téléthon, c'est ce week-end, nouveauté, le Téléthon digital. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle avec son ambassadeur Jean-Michel Jarre. Et puis, la France accueille pour la première fois le championnat du monde de breaking. C'est ce soir. Et c'est une discipline en plein essor, vous le verrez, découverte dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Week-end. Thierry Dagiral.
1h-10, suite et fin de votre édition de la mi-journée. On va parler du Téléthon à présent. C'est ce week-end, vous le savez, c'est la 35e édition. Malgré le Covid, la FM Téléthon espère faire grimper son compteur au-delà des 77 millions récoltés l'année dernière. Des dons qui, vous le savez, financent les travaux des chercheurs. On est à 16 millions récoltés ce samedi midi. Avec nous, Jean-Michel Jarre, bonjour.
Bonjour.
Auteur, compositeur, interprète, bien sûr, pape de la musique électro, on va dire. Mais surtout, vous êtes cette année l'ambassadeur de ce Téléthon digital. C'est quoi précisément?
Alors, pour la première fois, le Téléthon étend sa diffusion dans le monde digital, notamment pour toucher aussi toutes les jeunes générations qui sont évidemment, dont c'est la grammaire, la réalité virtuelle à travers les jeux vidéo, sont énormément développés et c'est une manière aussi d'atteindre aussi des jeunes qui sont très sensibles au sujet forcément, potentiellement, du Téléthon. Ça les concerne, ça nous concerne tous.
Vous allez organiser ce premier concert immersif 3D pour le Téléthon. C'est quoi précisément? Ça va ressembler à quoi?
Alors en fait, il y aura d'abord la diffusion du concert que j'ai donné dans le Notre-Dame virtuel lors du dernier jour de l'an, et qui a été suivi par plus de 75 millions de personnes dans le monde, ce qui a été une totale surprise pour nous tous, mais qui montre à quel point l'intérêt justement de ces nouvelles technologies dont on parle beaucoup, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, intéresse un grand nombre de gens et sont suivis par un grand nombre de gens sur la planète. Et l'intérêt effectivement aujourd'hui par rapport au Téléthon, c'est de pouvoir effectivement diffuser ces concerts, puisqu'il y aura en dehors de la diffusion de nos concerts, des concerts live qui vont avoir lieu avec tas de jeunes artistes, ouais. dans le, à la fois qu'on pourra suivre sur la chaîne YouTube du Téléthon, et en même temps aussi en VR, pour ceux qui ont les casques de réalité virtuelle, ouais. et de cette manière, en même temps, comme je le disais, toucher un public différent, et aussi les faire... pouvoir arriver à finalement impliquer toute une jeune génération dans l'idée de faire des dons à des gens qui en ont besoin. Et ça, comme nous le savons, le Téléthon essaye justement de toucher toutes les catégories de public.
Et c'est la raison
pour laquelle j'ai accepté d'être l'ambassadeur de ce Téléthon digital.
Et vous l'avez dit, Jean-Michel, c'est une manière aussi de toucher en effet le monde entier, de communiquer largement sur cette maladie grâce à vous et grâce à ce Téléthon digital. Hein.
Exactement. Et effectivement, jusqu'à maintenant, on s'est, j'allais dire, limité à l'Hexagone. Et le grand avantage, justement, de pouvoir lancer ce Téléthon digital, c'est de pouvoir toucher aussi des gens à l'extérieur des frontières et de pouvoir, comme vous le dites très justement, sensibiliser des gens au-delà des frontières par rapport à cette maladie et ces maladies, et de pouvoir faire que le Téléthon puisse aussi exporter son message.
Merci à vous Jean-Michel Jarre, ambassadeur de ce Téléthon digital. On rappelle bien sûr le numéro pour faire un don, 36 37. Grand merci à vous Jean-Michel.
Voilà. Et dernière chose, ça commence donc tout à l'heure, à partir de 18h, pendant 24 heures. Et donc, j'encourage chacun à faire passer le message et que chacun devienne l'ambassadeur du Téléthon digital.
Jean-Michel Jarre sur Europe 1, grand merci à vous.
Merci.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
Le football avec la 17e journée de Ligue 1 et Lens qui attend de pied ferme les Parisiens. Les nordistes qui espèrent réaliser l'exploit et s'inspirer de Rennes, de Lille ou encore Manchester City qui ont battu les Parisiens cette saison. Notez que les supporters de Paris sont privés de déplacement. Décision prise par le ministère de l'Intérieur en raison d'un risque d'affrontement entre les deux camps. Match à suivre ce soir, bien sûr, dans Europe 1 Sport présenté par Lionel Rosso. On va s'intéresser maintenant aux Mondiaux de breakdance. C'est à Paris, c'est ce soir, c'est au Théâtre du Châtelet. Vous savez que cette discipline sera au programme des JO 2024. 50 pays, 200 danseurs s'affrontent en battle. La finale aura lieu dès 20h. Les meilleurs breakers français sont là et Céline Giraud les a rencontrés.
À quelques heures de la compétition, la pression monte dans la salle de danse. 60 nations, 200 participants, la concurrence sera féroce. Le breakdance change définitivement de dimension. Et pour l'entraîneur national Abdel Moustapha, il y a encore des préjugés à faire tomber.
Dans le milieu sportif, on savait déjà qu'il allait y avoir des critiques. Même dans notre communauté, il y avait certaines inquiétudes et qui se sont effacées au fur et à mesure parce qu'on a bien montré qu'on était réellement à cheval entre le sport et la culture.
En compétition, chaque battle est un défi. Des sessions de 45 secondes où il faut imposer son style, mais aussi placer un maximum de figures. Top rock, freeze, footwork, power move. La big girl Carlotta, 19 ans, adore ces moments-là.
Dans le break, on a besoin d'être assez complet. On est une danse technique, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est l'originalité, la danse. Je sais que quand je danse, je suis assez souriante, assez solaire, et c'est ça que j'aime diffuser quand je danse.
40 ans après le tube interplanétaire de Break Machine, la nouvelle génération est prête à faire à son tour un carton.
Voilà, Céline Giraud, chef du service Société d'Europe 1. Dans une heure, vous avez rendez-vous avec Laurie Choleva pour Clap, le magazine du cinéma. Bonjour Laurie.
Salut Thierry.
Alors, une idée de ciné pour ce week-end avec le nouveau film d'Yvan Attal. Hein.
Oui, Les choses humaines, brillant film de procès adapté du roman de Karine Thuil, prix Goncourt des lycéens, qui parle de la zone grise du consentement dans une affaire de viol. L'histoire est donc celle d'Alexandre, c'est un peu le fils prodige, il est étudiant à Stanford, il semble doux, gentil, attentionné, il joue du piano. Il vient de rentrer pour le week-end, il part à une fête en compagnie de la fille du nouveau compagnon de sa mère. Mais voilà que le lendemain, la jeune femme accuse Alexandre de l'avoir violée.
Ma fille a porté plainte pour viol contre ton fils.
Impossible, ça n'a aucun sens.
Une enquête est en cours.
Vous êtes placé sous contrôle judiciaire, vous pourriez vous retrouver en prison.
Notre fils, bon, c'est sûrement une folle.
Et s'il l'a vraiment violée?
Oui, tu te rends compte de ce que tu dis?
Un homme peut mentir parce qu'il a peur, parce que la réalité de ses actes lui paraît insupportable.
J'ai rien fait, c'est un cauchemar.
Vous l'avez suivi de votre plein gré?
Il m'avait dit qu'il avait un couteau.
Il vous a menacé avec ce couteau?
Sa vie va être foutue!
La vie de qui, Claire? La vie de qui va être foutue? La vie de qui?
Est-elle victime ? A-t-elle menti pour se venger ? Est-il le monstre décrit dans le procès ? Le film montre bien la difficulté de rendre justice lorsqu'on parle d'un acte commis dans une stricte intimité, sans témoin, avec deux perceptions différentes. Le film parle aussi des dommages collatéraux et puis des doutes qui peuvent traverser l'esprit des parents. Les choses humaines, c'est vraiment un film palpitant nécessaire qui permet aussi de révéler deux jeunes acteurs, Ben Attal, le fils d'Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, et Suzanne Joanet qui joue la plaignante.
Parfait, Laurie. Je signale que dans une heure, eh bien, vous parlerez des Tuches 4, sorties bien sûr attendues, et vous recevrez Olivier Barou, le réalisateur. Merci beaucoup, Laurie Cholevin. La météo à présent, Valérie Darmon. Bon, ben ça y est, hein, l'hiver est bel et bien là. Hein.
Effectivement, avec de la pluie, de la Bourgogne-Franche-Comté aux Alpes, à l'Auvergne, à Rhône-Alpes et du Limousin au nord de l'Aquitaine et de l'Occitanie. De la neige à haute altitude aux environs de 1700 mètres en matinée et puis en fin de journée aux alentours de 1000 mètres sur les Pyrénées. 500 à 600 sur le Massif central, 500 à 800 sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, 1000 sur les Alpes du Sud. Les cumuls sont assez conséquents, notamment sur les Alpes du Nord. Ailleurs, c'est pas mieux, c'est très couvert. La journée se poursuit sous un ciel très nuageux, accompagné de fréquents passages pluvieux sous forme de giboulées. Sous les grosses averses, le vent se renforce aussi et donne lieu localement à du grésil. Sur les côtes de la Manche et Atlantique, le vent d'ouest se renforce jusqu'à 100 km/h et jusqu'à 70 dans les terres. Enfin, sur le pourtour méditerranéen, le ciel est plus nuageux, avec quelques pluies faibles, alors que le vent d'ouest atteint 90 km/h. Les températures sont en baisse par rapport à celles de ce matin, 8 à 12 degrés, 13 à 14 en Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à 16 à 17 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit Chico des Gypsy King, Joby Joba. A tout de suite pour les dernières infos.